Alors, Mavou le Chayaïch Batorim, Tsavarech Bachaouzi. Ce verset, il a l'air complètement hermétique. On va voir comment le traduire. Navou le Chayaïch, mot à mot. Navou, elles sont agréables. Le chayaim, c'est les joues, le bas du visage. Tsavarech, torim. Torim, c'est les boucles d'oreilles. Tsavarech, mutamo, ton cou. Bacharouzim, Harouzim, ce sont des colliers. Donc ici, le verset d'avant parlait de la réponse d'Akadosh Baruch Hu au peuple juif. Et on avait vu qu'il y avait deux versets qui précédaient. La première chose à l'interrogation du peuple juif, que deviendrait-il dans la galoute ? La première réponse était Al-Mishkanot Aroim, c'est-à-dire suivre les pas des pères. La deuxième chose, c'était le Sousati Berifé Paro Dimiti Rayati, qu'on avait dit que c'était la prière. Et ici, il y a une nouvelle dimension. Navou le Chayaïch Batorim. Le Midrash traduit le Chayaïch Batorim. Tor, c'est le même mot que Torah. Quelquefois, c'est employé. Merci beaucoup. Au féminin, quelquefois c'est employé au masculin. Batorim, Bishte Torot, comme ça dit le Midrash. Torah Shebirtav, Ve Torah Shebalpe. La Torah écrite et la Torah orale. Qu'est-ce que c'est le Chayaïr? Eloua Sofrim, Vehamelamdin. Ce sont ceux, les scribes, ceux qui copient les livres. Les Sofrim, c'est aussi employé pour les Talmidei Chachamim, ceux qui étudient. Et les Melamdim, c'est ceux qui enseignent la Torah. Tsavarech Bacharouzim. Qu'est-ce que c'est Charouzim? Le coup Bacharouzim. Charouzim Motamo, c'est ce qu'on met autour du cou, des colliers, c'est le Sanhedrin. Alors là, on va essayer d'expliquer. Ici, on est en train de parler de ce qui peut protéger le peuple juif dans la galoute. Puisque l'interrogation du peuple juif à Kadosh Baruch Hu, c'était de demander comment et par quoi est assuré l'avenir du peuple juif. Dieu dit, voilà, le peuple juif, il a deux qualités. Navou le Chayaïch Batorim. Le Chayaïch, c'est ce qui est fait pour parler. C'est pourquoi on emploie ce mot-là. Le Chayaïch, ça veut dire ceux qui étudient et ceux qui enseignent. Tsavarech, le tsavar, c'est ce qui maintient la tête haute. Le coup, Bacharouzim, c'est le Sanhedrin. Parce que vous savez que le Sanhedrin, la halakha précise qui devait être les 71 membres du Sanhedrin, devait être assis, que Khatsi Goren Agula, c'est-à-dire en cercle, et les élèves étaient en rangée devant. Donc ici, si on veut, il est écrit qu'il y a deux choses qui maintiennent le peuple juif. D'abord l'étude et l'enseignement, et ensuite le fait qu'on ait quelqu'un qui soit capable de décider de l'halakha. Pourquoi? Parce que la halakha n'est pas obligatoirement fonction ni de la connaissance, ni de l'étude. La halakha, c'est une autre dimension. On va essayer de voir quelle est la dimension de la halakha par rapport à celle de l'étude. Je peux apprendre des halakhot. Je vais me mettre à étudier, on va dire, la Gemara titrée du traité de Shabbat. Je saurai qu'il y a 39 halakhot, il y a 39 travaux qui sont définis comme les actions que l'homme a sur le monde, qui sont interdits le Shabbat. Je peux les étudier un à un. C'est assez compliqué la façon dont on apprend de la Torah. Quels sont ces travaux? Comment les définir? Une fois que j'ai pénétré le sens de ce que la Torah voulait me dire, je vais être confronté à différents points de vue qui sont les différentes compréhensions des choses. Vous savez que là, il faut mettre une parenthèse. Deux personnes différentes peuvent étudier le même texte, peuvent étudier les mêmes mots. Lorsqu'il s'agit de la Torah orale, c'est encore plus plausible, et peuvent comprendre les choses de façon différente. Pourquoi? Parce que la logique pure n'intervient dans la compréhension que à un certain pourcentage. Le reste, ça dépend d'autre chose. Ça dépend de la référence aux acquis, dont chacun a une référence différente. Ça dépend de la sensibilité. Chacun a une sensibilité différente. Et on va être obligé, lorsqu'on entend la même parole, ou lorsqu'on étudie le même texte, puisque vous savez que la halakha marche toujours par l'épreuve, c'est-à-dire, je dois prouver que le texte veut dire ceci et non pas cela. Pour ça, il y a une méthodologie qui sont les 13 midot, les 13 façons de raisonnement qui définissent la logique de la Torah. Mais en fin de compte, c'est 13 lois de logique. Mais on peut aboutir avec ces 13 lois de logique à des conclusions différentes. D'où ça vient? Ça vient de là. Le fait que la logique, ça n'est pas le 100% de la compréhension. Et je peux très bien, moi, arriver à sortir d'un texte quelque chose, l'autre sortir quelque chose d'un petit peu différent, et que lui n'arrive pas à me prouver qu'il a raison, et que moi je n'arrive pas à prouver que j'ai raison. Pourquoi? Parce que toutes mes preuves, elles peuvent être réfutées, et toutes ces preuves peuvent être réfutées, parce que la logique absolue n'entre que pour une certaine partie. On va aller plus loin encore. Vous savez que dans n'importe quelle compréhension des choses, lorsqu'on dit comprendre, le mot comprendre en français aussi, en hébreu c'est encore plus, parce que c'est le mot le havin, ça veut dire absorber. Mais il y a l'absorbé et l'absorbant. C'est-à-dire que lorsque je dis que quelque chose est vrai, c'est un raisonnement qui se fait en trois phases. Ça dépend d'abord de l'œil que je jette sur la chose. Je dis, voilà, ce mur est brun. Il faut d'abord que j'ai une référence qui me permet d'avoir une description la plus fidèle de ce que je veux décrire. Après, il faut que j'ai une référence. Et après avoir vu la référence, je vais donner une définition qui devrait être celle de tous sur ce que je vois. Donc d'abord, c'est moi qui étudie l'objet à étudier. En plus, je dois me référer à quelque chose. Et en troisième partie, je donne ma définition de ce que je vois, de ce que je comprends, de ce que je perçois. L'œil, ça peut ne pas être le même chez chacun. La référence peut ne pas être la même chez chacun. À partir de ce moment-là, il est évident que lorsqu'on va arriver à la conclusion, ce ne sera pas la même chez chacun. Ici, je ne parle même pas d'une observation, parce que l'exemple qu'on donne n'est pas vraiment bien. Vous avez sûrement vu que deux personnes qui ont assisté à un accident de voiture, chacun dit autre chose. Mais un texte, on peut prendre son temps pour l'étudier, et on n'est pas obligé chacun de dire autre chose. Là, on est obligé de dire que dans chaque compréhension, il y a une part de volonté. Parce que vous savez que tous les raisonnements, on va dire même tous les comportements, dans la vie ont une fin, ont un début et ont une fin. On peut les serrer et on peut les étudier. Mais la seule chose qui n'a pas de fin, c'est la volonté. Si j'ai décidé de ne pas comprendre telle ou telle chose, ou de le comprendre de telle ou telle façon, le raisonnement le plus logique ne me fera pas, bien sûr, on ne parle pas des choses grossières. Quelqu'un ne pourra pas soutenir que 2 font 5. Mais dans les choses qui sont plus fines, il y a une part de volonté qui entre dans le raisonnement. Ne serait-ce que pour passer de la description à la référence. Là intervient la volonté. Et la volonté est infinie. C'est la seule chose dont on est sûr qu'il n'a pas de fin. Chaque chose, on peut la structurer, on peut l'étudier. La volonté, ce qu'on appelle en hébreu le ratson, c'est une chose qui est illimitée et qui peut se glisser dans n'importe quel comportement et dans n'importe quel raisonnement d'une façon que je ne peux pas toujours contrôler. Ce qui fait que, à l'intérieur d'une parole, il y a toujours l'observation de la parole, la résonance que cette parole a par rapport aux acquis, et cette résonance, elle peut être différente chez l'un et chez l'autre. On cite toujours l'exemple de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il est écrit dans une Gemara, c'est dans le traité de Souka, qu'il n'a jamais donné un enseignement qu'il n'a pas entendu de son maître. C'est-à-dire que de sa vie, il ne s'est jamais permis, lui, de conclure à quelque chose dont il n'avait pas entendu la conclusion de la part de son maître. Il n'a fait que répéter fidèlement ce que son maître lui avait transmis. Comme ça dit Rabbi Eliezer, « Meolam lo amarti davar shelo shamati mipi Rabbi. » Je n'ai jamais dit une chose que je n'ai pas entendue de mon Rabbi. Pourtant, on trouve dans le Talmud Yerushalmi une autre version, que le jour où Rabbi Eliezer a eu la smicha, c'est-à-dire qu'on lui a donné l'autorisation de fixer la halakha, il a fait une dracha, il a parlé d'un sujet, Shelo Shmatan Ozen Meonam. Il a dit les paroles qu'aucune oreille n'avait jamais entendues. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si personne n'a jamais entendu, il n'a pas pu l'entendre de son maître. Deuxièmement, la Gemara nous dit que Hakol nitan le Moshe Misinaï. Tout a été donné à Moshe au Sinaï. Afilu Moshe Talmid Vatik Atid le Chadesh. On va essayer de traduire fidèlement. Afilu même, Moshe Talmid Vatik, ce qu'un élève expérimenté, pas n'importe quel élève, Atid sera mais un jour le Chadesh. Le Chadesh, ça veut dire à trouver. Le mot Chadesh vient du mot Chidush qui veut dire nouveau. On dirait même à inventer. Comment dans la même phrase peux-tu dire tout a été donné à Moshe au Sinaï, même ce que quelqu'un dans 50 ou 100 générations après va trouver. Mais puisque le trouve, ça n'a pas été donné à Moshe au Sinaï, puisque ça n'a pas été transmis. La réponse, elle doit être celle-ci. C'est que dans l'enseignement du maître, il y a peut-être quelque chose que le maître lui-même ne discerne pas. Parce que lui aussi reporte finalement que l'enseignement de son maître. Et même s'il le reporte fidèlement, ça n'est pas parce que je répète des paroles, même que je répète une compréhension des choses, que je ne peux pas faire appel à des notions qui ont trouvé un écho chez l'autre et qui n'ont pas d'écho chez moi. Donc je peux très bien enseigner quelque chose à quelqu'un, et finalement à l'intérieur de ce que j'ai enseigné, la personne va me dire, vous avez dit ça et ça, alors que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais pensé. C'est comme ça qu'on va retrouver des choses qui ont été dites à Moshe au Sinaï, alors que nous on va les trouver. J'espère que vous saisissez. À partir de ce moment-là, on est obligé de définir non seulement les critères de compréhension qui sont très définis, mais on a dit que même avec ces critères de compréhension, avec une méthodologie absolue de compréhension, on va quand même avoir une part qui dépend de l'arbitraire. Comment est-ce qu'on va s'en sortir et comment est-ce qu'on va définir ce que cette part peut fixer en tant qu'alaha? Parce que ça va déboucher sur l'alaha, ce qui est conseillé et déconseillé, ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est pur, ce qui est impur, ce qui est faux et ce qui est juste. Alors, il est certain, chacun peut comprendre, que même si la Torah englobe tout, les données, les moments, les événements de la vie, il reste que tout ne peut pas être transmis en même temps, et qu'on transmet les choses en transmettant les principes. Mais un principe, lui-même, peut englober différentes choses qui peuvent être dégagées par l'élève et qui ne sont pas obligatoirement transmises de par la conscience du maître, mais par les paroles du maître. À ce moment-là, on est obligé de fixer. Alors, qui va décider? Comment on va décider? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire que on va imaginer les choses dans un sens contraire. Vous prenez le journal officiel. Et il y a une loi qui vient de sortir, vient d'être édictée. Elle est parue au journal officiel. Vous allez prendre deux avocats. Vous allez leur demander quelles sont les incidences exactes de ces lois, quels sont les effets, dans quel cas elles s'appliquent. Chacun va vous sortir des choses contradictoires. Alors on va dire, ça c'est normal. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui a dicté la loi, on ne peut jamais assez préciser sa pensée, et il y a une imprécision dans la rédaction de la loi qui fait que on peut s'engouffrer dans des portes différentes. Mais d'un autre côté, il y a une facilité. C'est qu'on comprend qu'il y a un esprit de la loi. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui l'a inventé. Et celui qui l'a inventé pour une nécessité. Donc c'est beaucoup plus facile à retrouver que si vous ne connaissez pas cet esprit, vous ne connaissez pas celui qui l'a inventé. Et qu'une loi vous tombe du ciel en vous disant, voilà, le Shabbat c'est telle et telle chose, puis telle et telle chose. Là vous ne pouvez pas étudier la psychologie de celui qui a dicté la loi et de penser que voilà ce qu'il a rendu de son esprit à travers la lettre. C'est impossible. D'abord parce qu'il n'y a pas d'esprit. Ça, il faut aussi le comprendre. Parce que la Torah, lorsqu'elle enseigne quelque chose, ça n'est pas nous à retrouver quelle est l'idée de Dieu. Parce que ça ne veut rien dire. Parce que si tu recherches quelle est l'idée qu'il avait au moment où il a dicté la loi, je te dis d'abord, il n'y avait pas de moment où il a dicté, c'est déjà une chose qui n'existe pas. Il n'y avait pas une idée qui est celle-ci précise, il y avait toutes les idées en même temps. Donc la Torah, c'est pas l'étude de la Torah n'est pas, lorsque j'étudie un verset de la Torah, lorsque j'étudie la Torah orale, c'est pas une façon de savoir qu'est-ce que le bon Dieu avait derrière la tête, puisque justement, il n'y a pas de tête. Il faut bien comprendre ça. Je ne peux pas faire une étude psychologique de Dieu en disant, lorsqu'il m'a dit les choses telles et telles, c'est qu'il avait telle et telle idée, et j'ai très bien cerné là où il voulait en venir. Parce qu'il voulait en venir nulle part, si ce n'est les mots qui ont été dictés. Là, on va aller plus loin. Si une loi a été dictée dans la Torah, elle est donc donnée à la compréhension de l'homme. Il est évident que je n'ai pas essayé de savoir, et ça ne veut rien dire d'essayer de savoir quelle est la psychologie ou quelle est l'idée que le monde avait derrière la tête en dictant cette loi. À partir de ce moment-là, tout ce qui peut être perçu à travers les mots ou à travers l'enseignement qui s'est donné par la voix orale a valeur de vérité. Je ne sais pas si vous comprenez bien. La différence entre la Torah et le code Napoléon, c'est que le code Napoléon, c'est Napoléon qui a transmis sa pensée à travers le code. Donc je vais prendre des critères qui vont essayer de savoir quelle était la pensée de Napoléon en dictant le code. Mais attends, c'est pas comme ça. Parce que d'essayer de savoir quelle est la pensée de Dieu en dictant la loi, ça ne veut rien dire. Parce qu'il n'y avait pas de pensée. Parce que la pensée est écrite, elle est là. Dieu, c'est pas quelqu'un où il y a une différence entre la pensée et l'écriture, entre l'idée et la façon de la transmettre. C'est-à-dire que tout ce que je pourrais comprendre et vérifier de ce qui est dans le verset, c'est ça qui est vrai. Je ne sais pas si vous saisissez. Lorsque l'écriture ou la parole vient transmettre une idée, il est valable d'essayer de voir quelle est l'idée qui est derrière et comment la parole ou l'écriture la transmet. Mais lorsqu'il s'agit de la Torah, c'est le contraire qu'il faut faire. C'est d'essayer de voir comment peut être interprétée la parole. Parce que la Torah s'adresse aux hommes. Ce n'est pas les réflexions du bon Dieu qui sont écrites. C'est un enseignement qui s'adresse aux hommes. Et il n'y a rien à faire passer qui n'est écrit. À partir de ce moment-là, je veux dire que la seule référence, c'est le texte. La seule référence, c'est l'halakha qui est transmise. Si de cette halakha, par la méthodologie qui est la mienne, sort que le din va sortir plus comme ça ou plus comme ça, et que j'arrive à le prouver, c'est ça ce que ça voulait dire. Si c'est différent, c'est aussi ça ce que ça voulait dire. Ça veut dire que la Torah, ça n'est pas du tout et en rien les idées que le bon Dieu a mis sur papier. La Torah, c'est la loi. Et puisque c'est la loi, c'est à moi, l'étudiant, d'essayer de déterminer quelles sont ses conséquences et quelles sont ses incidences. Si je suis rigoureux et que j'applique la méthodologie exactement, ce que je dis est vrai par rapport au texte. Si quelqu'un arrive à me prouver et que je n'arrive pas à détruire ses preuves, qu'on peut interpréter le texte autrement, lui aussi tiendra une vérité par rapport à ce texte-là. Non seulement la Torah est d'accord avec ce système-là, mais il ne peut pas y en avoir un autre. Vous voyez pourquoi? Parce qu'un homme ne peut pas essayer d'étudier la pensée de Dieu. Ça ne veut rien dire. Il peut étudier un texte qui lui a été donné. Il peut étudier une loi qui lui a été donnée. Mais il ne peut pas étudier la pensée de Dieu, puisque la pensée de Dieu n'obéit pas du tout aux critères qui sont ceux de notre pensée.
La volonté de Dieu.
La pensée. Je ne peux pas dire, moi, que j'ai cerné la pensée de Dieu, ça ne veut rien dire. Alors de dire qu'à travers la loi, j'ai cerné la pensée du législateur, ça veut dire quelque chose. La preuve est très simple, c'est que je vais aller demander au législateur si c'est ce qu'il a voulu dire, oui ou non. Et puis le législateur, il pourra dire ce qui est vrai et ce qui est faux, parce que c'est lui qui s'exprime. Mais curieusement, chez nous, tout le monde sait que la halakha est que je ne peux pas demander à Dieu ce qui est vrai et ce qui est faux. Pourquoi? Parce que la seule façon qu'aurait Dieu de me dire ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est en me disant, viens, on va étudier le texte avec les méthodes qui sont ceux de la Torah, et voilà ce à quoi on va arriver. Donc il n'est pas plus fort que moi dans l'étude de la Torah, puisqu'il est obligé d'utiliser mes ustensiles pour l'étudier. Mais il ne peut pas dire, non, c'est moi qui ai écrit la Torah, donc vous n'avez pas bien compris, et je vais vous dire que c'est comme ci et comme ça. D'où est-ce qu'on le sait? C'est parce qu'il est écrit un verset dans Devarim, « Et il est à Devarim, à cher Dibera Hashem, Voici les paroles que Dieu a dites. Et il est advarim. Voici les paroles. La Gemara dit, Melamed, de là nous apprenons, She'en navi rachai le chadesh davar me'ata. Un prophète ne peut pas venir et me dire, Dieu m'a dit que l'explication ou la façon de compléter ce qui n'est pas marqué, ou on rajoute une mitzvah, tout ça, ça n'existe plus que marqué Eile Advarim. Voici les paroles. À partir de ce moment-là, le bon Dieu n'a qu'une voix. Donc de même que nous allons selon la majorité, c'est la façon que nous avons de trancher dans le débat, on va selon la majorité, c'est-à-dire que le Sanhedrin se réunit et qu'il vote à la majorité la halakha. À partir de ce moment-là, le bon Dieu n'aurait qu'une voix. Puisqu'il n'aurait qu'une voix, on voit bien que la façon de légiférer, ça n'est pas une pensée transmise et à toi de trouver la pensée. C'est un texte ou une parole qui est transmise et à toi d'étudier le texte et la parole. L'idée que Dieu transmettrait à l'homme ne peut pas trouver d'écho si ce n'est par l'écrit ou par la parole. Nous n'avons pas d'autre moyen de cerner les choses. Essayer de penser à quoi Dieu a pensé à ce moment-là, ça ne veut rien dire pour nous. Parce qu'on n'a aucun repère pour ça. On n'a pas de méthodologie de la pensée de Dieu. Si on avait écrit un traité de méthodologie, voilà quelle est la pensée de Dieu, ça voudrait dire que l'homme a cerné Dieu. Ce qui n'est pas le cas. C'est comme si un ordinateur, un jour il vous sortait, voilà comment tu as fait pour constituer le programme. C'est la seule chose que l'ordinateur ne peut pas faire. Puisque lui-même fait partie du programme. Nous faisons partie de la création. De même que la Torah elle-même fait partie de la création. Étudier la pensée divine, si ce n'est à travers de ce qui est écrit, c'est impossible. Donc on va définir la pensée divine comme étant ce qui a été transmis par l'écriture dans la Torah, ce qui a été transmis par la parole, depuis mon cher Rabbeinu. Voilà l'étude que j'ai. J'en ai pas d'autre, j'ai pas d'autre possibilité. Donc la seule possibilité est de se réunir et de décider à la majorité. D'où on sait que c'est comme ça? Je veux dire, d'où est-ce qu'on sait? Il y a une Gemara dans le traité de la Mitzvah, la Gemara a dit, elle décrit une chose qui pour nous est un peu étrange, mais voilà ce que la Gemara décrit. Elle dit, quelqu'un a rencontré Eliyahu Hanavi, il lui a demandé, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait en ce moment? Il dit, il est en train de discuter avec Metivta Shelmala. Metivta Shelmala, ça veut dire la yeshiva d'en haut. Ce sont tous ceux qui ont étudié la Torah, qui ont droit de participer dans le monde des Neshamot, dans le monde des âmes, à l'étude de la Torah. Très bien. Il dit, alors qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a un cas pour lequel Akadosh Baruch Hu, Omer, Tahor, c'est pur, ou motif ta de Rokia, mais ceux qui étudient la Torah disent Tamé, c'est impur. Alors on raconte qu'est-ce qui s'est passé. Alors, comment est-ce qu'on a pu trouver la réponse? Les Chachamim sont venus chez Akadosh Baruch Hu et lui ont dit, il faut aller demander à Rabba Bar Bar Chana. Rabba Bar Bar Chana, lui, il est Yachid bin Gaïn, Yachid Bo'alot, c'est lui qui connaît le mieux les règles de pureté. Bon, comment on va aller chercher Rabba Bar Chana? Il est vivant. Il est en train d'étudier la Torah. On va lui envoyer le Malach HaMavet, l'ange de la mort. Au moment où Rabba Bar Chana est mort, il est mort avec ce mot à la bouche, Tahor. Ce dont vous dites que c'est Tamé, ce que vous dites qui est impur, c'est le bon Dieu qui a raison, c'est Tahor. Vous allez ouvrir le Rambam Maïmonide et vous verrez que sur ce problème anachique, il n'y a pas marqué que c'est pur, que c'est Tahor, il y a marqué que c'est impur, c'est Tamé. Les commentateurs demandent, mais pourtant la Gemara dit bien que Rabba Bar Chana, au moment où il est mort, il a dit le mot Tahor, et à ce moment-là, les anges ont dit Ashrecha Rabba Bar Chana, sois heureux Rabba Bar Chana, que Nafshecha Yatsa Betahara. Ton âme t'a quitté au moment où tu prononçais le mot Tahor, pur. Donc Rabba Bar Chana, il a bien dit pur. Ils disent oui, mais comme il a dit au moment où il est mort, ça n'a pas plus de valeur que ce qu'a dit le bon Dieu. Et comme on retrouve de d'autres endroits que les Chachamim, dans leur majorité, ont décidé que dans ce contexte-là, ce cas-là, c'était un cas d'impureté, donc la halakha n'est que c'est impur. Voilà ce qui ressort du Rambam de Maïmonide. Cette histoire est incroyable. Le bon Dieu dit c'est pur. Ceux qui étudient avec lui, les tzadikim, disent que c'est impur. Rava Bar Hana dit pur, c'est bon Dieu qui a raison. Mais comme c'est au moment où il est mort, ça n'a plus de valeur, il est plus parmi les vivants. Donc ça n'a plus aucune valeur. Donc on va faire la halakha selon les preuves qu'on a d'autres gmarot qui prouvent que la majorité des chachamim pensaient que c'était impur. Terminé. Ça, ce qui est marqué ici. Navu le chayayir batorim. Le peuple juif, sa beauté, ça veut dire son éclat. Navu, c'est la beauté. Le chayayir, ton expression, batorim, puisque tu as deux torahs. La Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite sans la Torah orale, c'est un livre fermé qui ne veut rien dire. La Torah orale sans la Torah écrite, c'est un livre qui n'a pas de référence. L'étude, ça consiste en essayant de retrouver dans la Torah écrite l'enseignement de la Torah orale. Tout ce que la Torah orale m'enseigne, je dois essayer de le retrouver dans la Torah écrite. La Torah écrite sans la Torah orale, c'est un livre auquel on n'a pas accès et qui est même inintéressant. Pourquoi ? Parce qu'on vous parle de choses que vous ne pouvez pas comprendre. Un exemple classique que donne Rashi. Les halachot, la façon dont on va faire la shrita, dont on abat une bête, que ce soit en ce qui concerne les sacrifices, ou que ce soit en ce qui concerne la viande qu'on va manger, ça obéit à beaucoup d'halachot. Ce qu'on appelle les ilchot shrita, il y a chamisha, il y a cinq grandes halachot de shrita qui se divisent en une cinquantaine, une soixantaine, une centaine d'autres. Ces halachot de shrita, on les connaît. Il y a une maserhet, c'est-à-dire qu'il y a un traité entier dans la Gemara qui s'appelle le traité de Khulin qui parle de ça. Mais dans la Torah, ce n'est pas marqué. Qu'est-ce qui est marqué ? Ve zavarta, notamment tu abattras l'animal, ka'asher tziviticha, comme je te l'ai ordonné. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Vous pouvez chercher depuis le début jusqu'à la fin, vous ne trouverez jamais qu'on parle de la façon dont on le fait, comment on le fait. De la Torah, vous pouvez très bien penser que on met une balle dans la tête de l'animal. Et puis, c'est ça la shrita. On n'en sait rien. Rachid dit, ici on voit que sans la Torah orale, la Torah écrite, c'est un livre fermé. Quelquefois, on a l'impression que la Torah écrite ou la Torah orale se contredisent. Il faut essayer de chercher quelle est la signification du verset pour essayer de voir en quoi il peut être en accord avec la Torah orale. Le principal du limoud de l'étude de la Torah, c'est ça. C'est d'arriver à posséder la Torah orale et de la remettre dans le verset. C'est pourquoi tout le monde sait que le Gaon de Vilna, à la fin de sa vie, il n'étudiait plus la Mishnah, il n'étudiait plus la Gemara, il n'étudiait plus le Zohar. Il avait tout dans sa tête. La seule chose qu'il avait devant lui, c'était un chumash. Il avait un chumash devant lui, et à travers le chumash, il arriverait à tout redéterminer, tout des pages, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de pages de Gemara et de livres qu'il arrivait à remettre exactement dans leur sens, qui est le sens du verset. C'est-à-dire que c'est ça le but du monde. Si quelqu'un arrive à conjuguer, c'est pour ça qu'on dit Beshté Torah, tu as deux Torahs, tu as une Torah écrite, Torah orale, mais en vérité, il y a une seule Torah. Si quelqu'un arrive à conjuguer les deux et à retrouver la source qui est la Torah orale dans ce qui est écrit, ce qui est fixé, la Torah écrite, alors là il est sûr qu'il a retrouvé les choses telles qu'elles doivent être. Ça, c'est le but de l'étude. Comme les questions sont infinies et que les réponses sont infinies, personne n'arrivera jamais à déterminer les choses d'une façon absolue. Mais c'est ça le but de l'étude dans le peuple juif. maintenant vous comprenez pourquoi le verset il est obligé d'être conjugué des deux choses. Navu le chaya irbatorim. Tu as la Torah écrite et la Torah orale, c'est une chose. Mais tsavarer bacharuzim. Le coup, ce qui maintient les choses, bacharuzim, tu es obligé de faire appel au Sanhedrin. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de trancher à la majorité. Impossible de faire autrement que de trancher à la majorité. Ce principe, il est déterminé dans un autre verset qui est écrit dans la Torah, lo bashamayim hi. La Torah ne se trouve pas dans le ciel. De là, tout le monde connaît l'histoire célèbre de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua à propos du tanour de Arnaï, un monsieur qui s'appelait Arnaï, dont on avait un problème de nouveau de pureté et d'impureté. Et Rabbi Eliezer avait un avis et tous les chachamim avaient un autre avis. Rabbi Eliezer n'a pas voulu se soumettre à l'avis des chachamim. À ce moment-là, il a dit, si j'ai raison, que les murs du Beit HaMidrash tremblent. Les murs ont tremblé. Les chachamim n'ont toujours pas été d'accord. Il a dit, si j'ai raison, qu'une source passe dans le Beit HaMidrash. La source est passée dans le Beit HaMidrash. Elle dit qu'un caroubier pousse. Caroubier a poussé. À la fin, il y a une batkol, il y a une voix céleste qui s'est élevée et qui a dit la halakha, elle est comme Rabbi Eliezer. C'est Rabbi Eliezer qui a raison. La Gemara dit Amad Rabbi Yeshua al Raglav. Rabbi Yeshua s'est levé, il a dit Lo bashamayim hi en mashgichim be batkol. Lo bashamayim, la Torah n'est pas au ciel, en mashgichim. On n'a pas à faire attention à la voix qui est venue du ciel. Ça, c'est reporté dans le texte de la Gemara. Et ça veut dire que on a une méthodologie. Et que Dieu lui-même est enfermé dans cette méthodologie, puisqu'il y a marqué Loba Shamaimi, la Torah n'est plus dans le ciel. Et il est advarim, voici les choses. Viendrait quelqu'un nous dire, et voilà, Dieu m'a dit qu'il y a une nouvelle mitzvah de la Torah. Dieu m'a dit qu'il y a d'anciennes mitzvahs de la Torah qui sont abrogées. Il y a des nouvelles mitzvahs de la Torah. Ça n'a aucun intérêt pour nous, puisque le texte nous dit Eile Advarim, voici ce qui a été. En vérité, si on réfléchit, c'est impossible que ce soit autrement. Parce qu'imaginez d'être à la merci de n'importe qui vient, qui vous dit que le bon Dieu m'a dit que, on doit refaire que, chacun puisse mettre ce qu'il a envie de mettre dans la Torah. Donc, si le bon Dieu ne veut pas que les hommes se mettent à rajouter et à enlever, il faut que lui aussi se discipline. Et qui est une discipline de ce qui est exactement la Torah. C'est vrai que ça pose le problème de ce qu'on appelle la vérité. C'est difficile de maintenant de savoir ce que c'est que la vérité. Il faut savoir que chez nous, il y a deux vérités. Lorsque l'on dit que Dieu est Emet, Hachem Elokechem Emet, Dieu, c'est la vérité. Et lorsque l'on dit ce que nous nous disons, ce que nous pensons que c'est la vérité. En vérité, on se sert de deux mots, mais dans une intention différente. Le premier mot qui dit que c'est la vérité ne veut pas dire vérité par rapport à un étalon. C'est pas lorsque nous nous disons c'est vrai. C'est pas du tout ça. Lorsque moi je dis c'est vrai, ça veut dire que c'est vérifiable. Et si tu vérifies, tu trouveras que ce que je dis est exact et juste par rapport à la vérification. C'est ce que nous, on appelle, nous, la vérité. Mais lorsqu'on dit que Dieu est vérité, ça n'est pas ça du tout. C'est pas que lui, on peut le vérifier avec un étalon, avec un moyen de vérification, ça ne veut rien dire. Quand on dit que Dieu est émet, c'est la même chose que lorsqu'on dit que Dieu est Echad. Il est unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est un. Ou lorsqu'on dit En od milvado. Il n'y a rien à part lui. Quand on dit vérité, ça ne veut pas dire vérité par rapport à quelque chose. Mais c'est le contraire. Ça veut dire que c'est ça l'étalon par rapport à ce que toi tu vas vérifier. C'est tout à fait différent. Ça veut dire que c'est lui qui définit la vérité. Alors que nous, lorsqu'on dit quelque chose est vrai, c'est qu'il est définissable par rapport à un consensus que tout le monde a. Si je dis que 2 et 2 font 4, c'est vrai, c'est parce que j'ai un moyen de vérifier que 2 et 2 font 4. Par rapport à ce moyen de vérifier, c'est vrai. Si je dis que je vais dans tel et tel sens, c'est que j'ai un moyen de vérifier que ce sens-là est celui qui a été défini autre part comme étant celui que j'ai déterminé. quand je dis que quelque chose va vers le haut, va vers le bas, c'est par rapport à des connaissances qu'on a. C'est vrai ou c'est faux? Lorsqu'on dit que Dieu est vrai, que la Torah est vraie, que Dieu est seul ou que Dieu est non invado, il n'existe rien à part lui, ça veut dire qu'il est la source de la vérité. C'est lui l'étalon. C'est deux notions qui sont totalement différentes. La vérité humaine ne peut être qu'une vérité qui est vérifiable. C'est ce qu'on appelle le émet, mais le émet par rapport à un consensus. À part ça, il n'existe pas de vérité. Par exemple, par rapport à un événement, il s'est passé telle et telle chose. C'est vrai ou c'est faux? On va vérifier. Si la vérification s'avère absolue, alors à ce moment-là, on va dire que c'est vrai. Mais il n'y a aucune vérité là-dedans qui a été exprimée. Si ce n'est que j'ai relaté quelque chose. C'est pas fausse. J'ai raisonné d'une façon qui n'est pas fausse. Mais je n'ai pas exprimé une vérité. Un homme ne peut pas exprimer une vérité, pas inventer une vérité. Il ne peut que retrouver quelque chose qu'il va pouvoir vérifier. Il va appeler ça vrai. Mais pas plus. Alors que lorsqu'on a dit que Dieu est émet, c'est une notion qui est totalement différente. C'est que c'est lui la source de la vérité. C'est que ce que lui laisse apparaître, c'est à cela que nous devons tendre. C'est une autre notion de la vérité. Quelquefois Dieu utilise notre notion de la vérité aussi. On va essayer d'expliquer comment. Lorsque Dieu a scellé l'alliance avec Abraham, il lui a promis et il lui a juré plein de choses. Asher nishbat il Avraham avicha. Dieu a dit à Yitzhak, il dit, voilà la terre, Asher nishbat il Avraham avicha. J'ai juré que je la donnerai à ton père. Très bien. On appelle ça le brit, l'alliance. Pourquoi est-ce que Dieu a seulement dit à Yitzhak, Asher nishbat il Avraham avicha? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit à Abraham? Pire encore, il y a un verset dans le Divrei Hayamim que nous disons tous les matins. On parle du brit de l'alliance Asher Karat et Abraham, que Dieu a scellé avec Abraham. Ou Shevuato, le Yitzhak. La chevoua, le serment, il l'a fait à Yitzhak. Vayamidea le Yaakov le Chok. Vayamidea, il l'a placé le Yaakov pour Yaakov. Le Chok en loi. Le Israël, et c'est pour le peuple juif, Brit Olam, une alliance éternelle. Alors, il a scellé l'alliance avec Abraham. Il a juré à Yitzhak. C'est devenu une loi à Yaakov. Et ce brit, il devient éternel pour le peuple juif. La réponse, elle se trouve dans un autre verset où il y a le même problème avec Yaakov Avinu. Tout le monde connaît l'histoire. Yaakov, lorsqu'il est parti de chez son père, il s'est arrêté sur le mont Moria, là où devait être érigé le temple. Et il a rêvé le fameux rêve de l'échelle, où on lui a promis tout ce qu'on lui a promis. Et puis, en se réveillant, Dieu lui a tout confirmé. Au moment où il va rencontrer Esav, Esaü, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la peur de son frère. Mais la promesse, on t'a fait la promesse. De quoi tu as peur? La peur que lui et toute sa famille soient exterminés. La Gemara demande, mais on lui a promis, pourquoi est-ce qu'il a peur Yaakov? La Gemara a une réponse qui est exceptionnelle. Shema Yigrom Achet. De peur que la faute n'ait rendu caduque l'alliance. La faute est rendue caduque l'alliance. Ah, maintenant, on va essayer de voir. Si vous regardez le verset, le matin, lorsqu'il s'est réveillé après le rêve et qu'il est allé chez Laban, il a dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je te demande? Lechem lechol, du pain pour manger, begadil bosh, de quoi s'habiller, et que je retourne de shalom, que je retourne en paix à la maison de mon père. Dieu lui a promis. Tu reviens, tu trouves Esav devant toi, tu as une promesse que tu retourneras à la maison de ton père. Tu commences à trembler. Au moins cette promesse-là, on ne parle pas de la descendance. Bon, une promesse pour, sur 3000 ans, c'est long. Mais toi, on t'a garanti, on t'a dit quelque chose, il y a une promesse. Le Ramban, il dit ceci, l'Achmané, il pose la question, il répond comme ça. Il dit, il y a une réponse, il y a une différence entre une promesse et un serment. Lorsqu'on scelle une alliance sur une promesse, c'est une chose. Lorsqu'on fait un serment, c'est une autre chose. Il faut comprendre ce qu'il dit. Il dit là-bas, c'était une haftacha, une promesse. Sous-entend une promesse. Comme les gens, ils disent, j'ai que promis. Serment, c'est autre chose. Qu'est-ce que veut dire le Ramban? Il veut dire ceci. Lorsque je promets quelque chose à quelqu'un, je n'ai pas promis que l'événement se passerait. J'ai promis qu'il se passerait avec ce quelqu'un. Si ce quelqu'un change, ou ce quelqu'un n'est plus là, il peut n'y avoir plus aucune raison à ce que la promesse s'accomplisse. Pourquoi? Parce que la promesse, elle est vis-à-vis de quelqu'un. Si je ne reconnais plus ce quelqu'un, tout le monde se sentira dégagé de sa promesse. Je donne un exemple. Un jour, quelqu'un est venu me poser la question, et voilà, j'ai promis à mon fils, au moment où il réussit son bac, de lui acheter une voiture. Il lui dit, c'est vrai qu'il a fait le bac. Mais il n'est plus à la maison, il se conduit d'une façon que je n'approuve pas, il fait ce qu'il veut, je ne sais même pas s'il ne fait pas de bêtises. Je suis dégagé de ma promesse ou je ne suis pas dégagé? Sous-entendu, ça veut dire quoi? Je promets quelque chose à quelqu'un. Il faut que ce quelqu'un... j'ai encore le moindre rapport avec lui. Mais si je n'ai pas du tout envie d'avoir le moindre rapport avec lui, en quoi ma promesse m'engage? Le serment, c'est autre chose. Lorsqu'on fait un serment, ça veut dire qu'on ne s'adresse pas à une personne. C'est qu'on s'adresse à une situation. Est-ce que la situation, elle va être vraie par rapport au serment? Oui ou non? La situation est fausse par rapport au serment? Tiens, parjure. Je fais le serment de... c'est pas que je te dois quelque chose, c'est que je me dois quelque chose par rapport à mon serment. Alors que la promesse, c'est un dû par rapport à la personne. C'est ce qu'il veut dire le Ramban. Il dit à Yaakov Avinu, on lui a seulement promis que lui reviendrait le shalom le bet avi. Seulement, Yaakov Avinu se reprochait quelque chose. À partir du moment où on se reproche quelque chose, se dit, mais peut-être que Dieu me reproche la même chose. Il y a un certain moment, les promesses deviennent caduques, puisque on ne se reconnaît plus dans la personne à qui il a été promis telle et telle chose. Pour qu'une alliance, elle puisse exister, et qu'elle ne soit pas dépendante d'aucune des deux parties, mais qu'elle existe en elle-même, il faut que ce ne soit plus une promesse. Il faut que ce soit un serment. Maintenant, pour que le serment il puisse exister de la part de Dieu, il faut que ça devienne une loi. C'est comme ça que maintenant ça va marcher. Parce que si je fais un serment dont je n'ai pas les moyens, moi je peux très bien faire un serment et qu'il soit caduque, non pas parce que je n'ai pas respecté, mais tout simplement parce que les moyens n'ont plus existé. Là aussi, je suis libéré de mon serment. Lorsque Dieu fait un serment, ça veut dire qu'il garantit que l'avenir sera selon le serment. C'est pour ça qu'on dit le Chok le Yaakov. Donc maintenant on comprend le verset. Asher Karat et Abraham. L'alliance a été scellée avec Abraham. C'est vrai, on a fait l'accord avec Abraham. Mais Shevoua, la Shevoua, le serment, on ne l'a divulgué, on ne l'a dit qu'à Yitzhak. Abraham, il pouvait toujours penser que ça dépendait de lui. Vayam Idea le Yaakov le Chok. Ça n'est qu'à partir de Yaakov que c'est devenu une constante obligatoire. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? On a déjà parlé de ça. Parce que ça n'est qu'à partir de Yaakov qu'il y a une garantie pour le peuple d'Israël. Puisque tant qu'il n'y avait qu'Avraham et Yitzhak, on pouvait sortir du peuple d'Israël. puisque Ishmaël, le fils d'Abraham, est sorti du peuple juif, et Esav, le fils d'Israël, est sorti du peuple juif. Il n'y a qu'à partir de Yaakov où on ne peut plus sortir. Donc c'est devenu une loi. Le juif, ça va rester toujours un juif. Israël, Shechata, je peux faire les pires des choses, je resterai toujours un juif. Alors qu'avant, non. Ce qu'on appelle un Israël Moumar, celui qui était renégat, il ne faisait plus partie du peuple juif. Esav ne faisait plus partie du peuple juif. Ishmaël ne faisait plus partie du peuple juif. Après Yaakov, c'est terminé. Plus personne ne peut échapper au destin du peuple juif. Il y a des avantages, on avait dit qu'il y a des inconvénients aussi. Parce que maintenant, chaque juif, on l'a sur le dos. Avant, un juif qui était embêtant, ça ne lui plaisait pas, il s'en allait. Maintenant, le juif, il reste, parce qu'il ne peut pas faire autrement que d'être juif. Il y a toujours un moyen, je vous dis tout de suite. Le moyen, il est connu, c'est le mariage mixte. Puisqu'un homme qui se marie avec une non-juive, les enfants sont non-juifs. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut quitter soi-même le peuple juif. C'est-à-dire que ses enfants peuvent ne pas faire partie du peuple juif. Ça, ça dépend déjà de la volonté du peuple juif. Mais là, on a déjà une, non seulement une promesse, mais une garantie que le peuple juif existera toujours. Ça, c'est la parenthèse. Le Emet, Dieu s'en sert lorsqu'il s'agit d'une choua d'un serment. Pourquoi? Parce que on peut promettre et faire le serment à une génération, mais la réalisation ne peut exister que dans une autre génération. À ce moment-là, ça aussi, ça s'appelle le Emet. Emet, ça veut dire quoi? C'est que tu peux vérifier que ce que j'ai dit, ce sera vrai. Par rapport à quoi? Par rapport au serment, par rapport à la promesse, par rapport à ceci ou cela. Mais ça, c'est uniquement lorsque c'est Dieu lui-même qui s'engage. Ça veut dire que cette vérité qui est celle de Dieu, elle va se vérifier par rapport à un serment, à un engagement que lui a pris. Ça aussi, ça s'appellera Emet. C'est pour ça qu'une promesse, c'est pas obligatoire que ça s'appelle Emet. Puisque dans la promesse, il y a deux personnes. Il y a celui qui donne la promesse, et il y a celui qui reçoit la promesse. Si celui qui donne la promesse ne reconnaît plus celui qui reçoit la promesse est cadeau. Donc, même chez Dieu, il y a deux Emet. C'est ce que nous, souvent, on confond. Il y a un Emet, j'ai promis, j'ai dit, j'ai fait le serment que, et voilà que ça se réalise. Ça, c'est un Emet qui est le même Emet que nous. Et il y a l'autre Emet, que lorsqu'on dit la Torah est Emet, elle est vraie, ça veut dire que elle ne supporte pas de concurrence ou de contradiction dans le fait qu'elle est originale, elle est absolue. Alors ça, c'est vrai. Comprenez que si vous êtes le seul, c'est toujours vous la vérité, parce que vous êtes le seul. Mais à part Dieu, il n'y a personne qui est le seul et qui peut dire, c'est moi la vérité. Donc lorsqu'on dit que Dieu est seul, lorsqu'on dit qu'il est unique ou lorsqu'on dit qu'il est vrai, en vérité, c'est pour définir la même notion. Donc maintenant, vous pouvez comprendre que Dieu lui-même, avec sa vérité, il n'a rien à voir avec la Torah. Puisque la Torah, c'est une expression écrite ou orale qui doit être étudiée par quelqu'un. Et selon le émet de cette personne-là, c'est-à-dire la vérification qu'elle fera de ses dires, est-ce qu'ils sont vrais par rapport au verset, par rapport à l'enseignement oral, c'est vrai ou c'est faux. Là, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on appelle émet chez Dieu. Donc c'est normal que Dieu n'ait qu'une voix. En plus, ce serait paradoxal que Dieu puisse venir nous changer la loi à chaque fois. Parce que ça voudrait dire que nous sommes tributaires de son émet à lui. Et nous n'avons pas de rapport avec ça, c'est impossible. Comprenez, je peux comprendre que selon le émet d'Akadosh Baruch Hu, une halakha change. Parce que je n'arrive pas à le déterminer, il est seul. C'est comme si on dit je suis le seul décideur. Aujourd'hui j'ai dit oui, demain j'ai dit non. J'ai rien fait de mal puisque je suis le seul décideur. J'ai le compte à rendre à personne. Et l'autre, on ne peut pas le concevoir. Parce qu'hier, en disant oui, j'avais déjà pensé que demain, je dirais non. Et de toute façon, je sais qu'après-demain, je dirais de nouveau oui. Si je suis le seul, c'est toujours une vérité. Ça n'a pas à se placer par rapport à une vérification quelconque, ou par rapport à un baromètre quelconque, ou par rapport à une échelle quelconque, ou par rapport à une critique quelconque. Alors, mais c'est pas vivable. comprenez bien que c'est pas vivable. C'est-à-dire que on peut pas nous faire une chose et son contraire en disant que c'est le émet. Parce qu'on n'est pas placé comme ça. En étant Dieu, on peut peut-être le justifier. Parce qu'on est seul. Il a dû avoir ses critères à lui qu'on connaît pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais nous, on peut pas se placer par rapport à ça. Donc si on avait affaire avec le émet de Dieu, on serait complètement perdu. On n'aurait même plus de référence. Donc on est obligé d'avoir une référence qui est écrite, ou orale, mais qui est écrite. C'est ça la Torah. C'est pour ça que la Torah, elle se pose en tant qu'enseignement, elle se pose en tant que loi. Voilà. Ça devient la référence. Maintenant, tu as affaire avec la Torah, tu as affaire avec le bon Dieu. De savoir qu'est-ce que le bon Dieu a voulu dire dans la Torah, c'est inintéressant. Mais c'est pas, tu trouveras jamais. Tu dois savoir qu'est-ce que la Torah veut dire. À partir du moment où on sait ce que la Torah veut dire, on peut s'affronter et dire, l'un dit que la Torah dit comme ça, et l'autre dit que la Torah dit comme ça. Il est évident que je ne parle que de ceux qui respectent le texte, parce que ceux qui amendent le texte, vous comprenez bien que c'est trop facile, c'est qu'ils se prennent pour le bon Dieu. C'est-à-dire que si je dis, non mais le texte, on va enlever, c'est une petite partie, raccorger une autre partie, on va faire comme ça. Là, il n'y a plus de discussion possible, il n'y a plus de vérité possible. C'est pour ça que ça doit toujours être par rapport à la même référence qu'on discute, et que l'on vote à la majorité. Mais si ce n'est pas par rapport à la même référence, ce n'est pas la peine. Ça veut dire que le doute vient du fait qu'on ait deux interprétations, que personne n'arrive à prouver absolument que son interprétation est la bonne. Donc il y a un moment où il y a ce qu'on appelle un safek, le doute. Ce doute-là, il faut faire bien attention. Il est très strict. Il a des références qui sont très très strictes. C'est que je peux interpréter comme ça, ça se vérifie. Je peux interpréter comme ça, ça se vérifie aussi. C'est ça ce qu'on appelle un doute. Ne pas savoir, ça n'est pas un doute. Ne pas comprendre, ça n'est pas un doute. Avoir une opinion qui est fondée et être en concurrence avec une autre opinion qui est fondée et de ne pas savoir trancher, c'est ça ce qu'on appelle le doute. Comprenez ? Un homme qui doute, c'est un homme qui arrive à justifier des deux côtés du doute. Mais quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, c'est pas qu'il doute. C'est que tout simplement, il doit encore plus réfléchir. Mais il n'en est pas au doute. Le doute, lorsqu'on appelle un safek, ça veut dire que des deux côtés, j'arrive à me placer. J'ai pas besoin d'être le défenseur ou l'accusateur, j'arrive à faire les deux. Et à ce moment-là, les opinions se confondent. C'est pour ça que cette loi de Harare Rabim Latot, qu'on aille d'après la majorité, elle n'est pas valable pour tout. C'est pour ça, j'ai sûrement déjà raconté, mais c'est une chose qu'il faut savoir, il y avait un rabbin Metz qui s'appelait le Chagatarié. Et un jour, dans ce qu'on appelait les disputations avec les évêques, il y a un évêque qui lui a posé cette question, qui lui a dit, voilà, dans la Torah, il y a une règle, Acharei Rabim Lahatot, on va d'après la majorité. Donc, puisque vous n'êtes pas la majorité par rapport aux chrétiens, vous êtes obligé d'aller d'après la majorité. Il a répondu, mais nous, sur le christianisme, on n'a aucun doute. Ça veut dire que, à partir de quand, Acharei Rabim, on va d'après la majorité, lorsqu'il y a un doute, j'ai deux opinions défendables, alors à ce moment-là, je vais peser le pour ou le contre, et je vais voir que le pour et le contre sont égaux. À ce moment-là, je m'en remets à la majorité. Mais si l'un des deux n'est pas convaincu que l'autre est à prendre en compte, il n'y a aucune raison qu'il aide après la majorité. Et non seulement ça, là, il n'a pas le droit d'aller d'après la majorité. Maintenant, tout de suite est prévu le cas où le Sanhédrin se trompe. Là aussi, il faut faire très attention à comment ça marche. On a demandé une halakha au Sanhedrin, il s'est trompé. Il y a un traité entier du Chaz qui s'appelle Orayot. Le traité d'Orayot, les enseignements du Sanhedrin. Voilà que le Sanhedrin s'est trompé. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que la Torah n'est pas dupe. Elle sait très bien que le Sanhedrin, même avec la majorité, peut se tromper. Et qu'après on vérifie, tiens, c'est l'autre qui avait raison. Qu'est-ce qu'on fait? Il avait la majorité. Alors il y a des lois particulières, parce que vous savez que lorsqu'on a fait, on a transgressé quelque chose de shogeg par inadvertance, il y a un sacrifice qui s'appelle le sacrifice de Khatat, qui doit être amené au temple. Lorsque c'est le Sanhedrin qui s'est trompé, c'est le Sanhedrin lui-même qui doit amener le sacrifice. C'est pas celui qui a transgressé parce qu'il a écouté le Sanhedrin. C'est le Sanhedrin lui-même qui doit apporter le sacrifice. Ça s'appelle Par Elem Davar. C'est un sacrifice spécial dont tout le monde est exempt et ne sont obligés de l'amener que les membres du Sanhédrin. C'est-à-dire que c'est à eux de prendre les responsabilités. Vous êtes trompés, C'est comme si un homme se trompe. Alors, on s'est trompé, ben, vous allez attraper la même démarche que le yachid, que le particulier qui s'est trompé. Et tous ceux qui vous ont écouté, eux, ils n'ont pas besoin d'amener des sacrifices. Attention. Qu'est-ce qui va se passer? S'il y avait quelqu'un qui était versé dans l'étude de la Torah, et que la Gemara dit, Higialora, c'est un élève, il n'est pas au Sanhedrin, mais il est arrivé au niveau d'avoir reçu l'autorisation de trancher en matière d'Alaha. Et que lui savait très bien que le Sanhedrin se trompe. Et lui, il a fait ce que le Sanhedrin a dit. C'est au Sanhedrin d'amener le sacrifice ou c'est à lui d'amener le sacrifice? Alors on a dit c'est à lui. Pourquoi? Parce que comme tu savais que le Sanhedrin s'était trompé, et que toi, tu as pensé qu'on allait d'après le Sanhedrin, alors que tu n'avais pas de safek, toi, tu n'avais pas ce doute-là. Donc tu n'étais pas dépendant du Sanhedrin. Tu l'as fait hein, parce que tu avais envie de faire, pas parce que le Sanhedrin l'a dit. Parce que si c'était parce que le Sanhedrin l'a dit, tu aurais répondu, mais ils sont trompés, je sais pourquoi. Donc, c'est à toi d'amener le sacrifice. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être bête. On n'a pas le droit de dire, moi je suis bête et discipliné, le Seigneur m'a dit comme ça, je le prends au mot. Si tu as le moindre problème et que tu sais que ça peut ne pas être comme ça, ne fais pas. Parce que le Sanhedrin, ce n'est pas le parapluie sous lequel on s'abrite. Le Sanhedrin, c'est à celui à qui on s'adresse quand on ne sait pas, lorsqu'on a un safek. Mais si toi, tu étais, ça s'appelle Yachid Vigalora, tu étais un particulier qui sait très bien et que tu as des preuves que ça n'est pas à l'alakha, même si devant Sanhedrin tu n'arrivais pas à le prouver, tu ne peux pas, toi, te mettre sous le parapluie du Sanhedrin et tu restes responsable. C'est comme les gens qui vous disent, moi de toute façon, c'est marqué kasher, je mange. Le boucher, c'est lui qui prendra la vera. Parce que si tu dis ça, c'est que tu as un problème. Parce que sinon, tu n'as pas besoin de dire que c'est parce que là, c'est marqué kasher. C'est parce que tu penses que c'est kasher qui rentre. Donc tu penses que c'est pas kasher, mais c'est marqué kasher. Alors il n'y a pas de parapluie. Tu ne peux pas venir après dire, mais c'est lui qui aura la faute, puisqu'il a marqué caché. Parce qu'on ne dupe que celui qui veut être dupe. Alors que celui qui dit, mais c'est sûr que c'est caché, puisqu'il a marqué caché. Celui-ci, puisque sa bonne foi n'est pas prise en défaut, lui, il est sous le parapluie. On lui reprochera rien du tout. Mais celui qui dit, mais peut-être que c'est bon, peut-être que c'est pas bon, il dit, ah, c'est pas mon problème, puisque c'est marqué, je le fais. C'est son anti-responsabilité. Ça veut dire que la Torah n'est pas venue avec le Sanhedrin déresponsabiliser l'individu. Elle n'est pas venue lui donner une facilité pour que, si toi tu n'es pas en doute, alors à ce moment-là, tu ne peux pas faire face à la majorité. Ça veut dire que on croit que la majorité, elle va produire ce qui est le émet, ce qui est la vérité pour nous. Mais là, il faut y croire. Si tu n'y crois pas et que tu te protèges avec ça, c'est que au fond, pour toi, ce n'est pas le émet. Puisque c'est pas le MF, pourquoi est-ce que tu l'as fait? Comprenez? C'est-à-dire que ça doit être très dur de se discipliner à la majorité. Et celui qui a une facilité de se discipliner à la majorité, c'est qu'au fond, il s'en fiche. Parce que si quelqu'un donne un avis contraire, et il se range à l'avis du Sanhedrin parce qu'il pense vraiment que puisque la halakha a fixé, c'est comme ça que ça doit être, ça veut dire que lui pense vraiment qu'il a tort. Pas qu'il a tort dans l'absolu, mais qu'il a tort ici, en ce qui concerne la fixation de l'alakha. Mais si lui sait pourquoi il a raison, mais qu'il n'arrive pas à se faire entendre, il n'a pas besoin, on va dire, il n'y a pas un fait religieux qui l'oblige à se tordre la tête et de penser qu'il ne possède pas la vérité. Aller d'après la majorité, c'est une discipline pour pouvoir enlever le doute lorsque toi tu n'es pas capable de te l'enlever, alors on l'enlève à la majorité. Mais si toi, tu te places au-dessus ou de côté parce que tu penses que l'autre s'est trompé, tu sais pourquoi, que tu n'arrives pas à lui prouver, ça ne veut pas dire que tu dois faire partie de cette majorité-là. Ça, c'est seulement si quelqu'un y pense que l'autre se trompe. Mais si quelqu'un il est de l'avis de la minorité, alors il n'est pas plus que la minorité, il doit se ranger l'avis de la majorité. Vous comprenez, il y a une grande différence. Si quelqu'un est de l'avis de la minorité, il est obligé de se ranger la majorité.
C'est la solution de
Si. Parce que lui, il ne pensait pas que le Sanhedrin se trompait. C'est parce que lui était de l'avis de la minorité et qu'il n'est pas arrivé à imposer son point de vue. À ce moment-là, il est obligé de se ranger. Mais si Rabbi Eliezer, c'est pas qu'il y avait deux avis, que lui était d'un avis. C'est que lui, il a une raison de penser que les autres se trompent. À ce moment-là, c'est tout à fait autre chose. Mais lui, c'est pas qu'il avait une raison de penser que les autres se trompent. C'est que lui, il a entendu les deux avis et qu'il pensait que c'est ça, la vérité. À ce moment-là, tu es obligé de te ranger dans la minorité. C'est-à-dire, il faut faire très attention. Ici, on parle de quelqu'un qui n'est pas de l'avis de la minorité. C'est pas qu'il a les mêmes arguments que la minorité, sinon tu n'es pas mieux que la minorité. C'est que lui pense qu'il a d'autres arguments qui font que la majorité et la minorité se trompent, mais qu'il n'arrive pas à faire valoir ses arguments. À ce moment-là, il n'a pas besoin de la discipline.
Ça peut être le cas de toute la minorité ?
Non, parce que si c'est le cas de toute la minorité, ce serait absolument improbable qu'il n'arrive pas à faire entendre. Qu'une personne, elle n'arrive pas à se faire entendre, on peut comprendre. Mais que toute la minorité du Sanhedrin a relevé une erreur chez la majorité et qu'il n'arrive pas à relever l'erreur, ça c'est difficile.
Et si vous êtes quelqu'un qui n'a pas de vie, qui est sûr de lui, donc il n'est pas dans la minorité.
Voilà, alors si.
Il y a deux lois,
absolument. Alors là, il est obligé de se discipliner. Ça veut dire que s'il est dans le Sanhedrin et qu'il a eu voix au chapitre, il a eu le droit de s'expliquer. Et il a, je ne sais pas, 30 pour lui. Donc il n'arrive pas à avoir la majorité. Et que les autres ont bien compris ce qu'il a voulu dire. Et qu'il y a un autre avis. Et que lui n'arrive pas à leur prouver qu'ils ont tort. C'est ça qu'on parle. Parce qu'à partir du moment où il y a une preuve, c'est absolu. À ce moment-là, il est obligé de se ranger à la majorité.
Et si lui reste persuadé que la majorité se trompe, dans ce cas.
Attention, il faut que lui, il ait une preuve et qu'il n'arrive pas à se faire entendre du Sanhedrin.
Il a une preuve, il n'arrive pas à se faire entendre.
C'est pas possible, puisqu'il a l'occasion de la dire. Absolument. Absolument. Mais celui qui s'en est rendu compte.
Celui qui s'en est rendu compte, il n'est pas dans la minorité.
Voilà, mais il s'en est pas.
Il va avoir ses arguments.
Absolument, mais il s'en est pas rendu compte pour la même raison. Parce que s'il s'en est rendu compte pour la même raison, alors il aurait pu faire valoir ses arguments. Parce que s'il peut faire valoir ses arguments, alors pourquoi le Yahid il sait que les autres se trompent? Il n'en sait rien, va confronter tes arguments. Peut-être qu'ils ont un argument contre toi, c'est jamais absolu. Donc c'est qu'il n'a pas pu se confronter. C'est de ça qu'on parle. Moi je parle de quelqu'un qui vient au Sanhedrin et qui dit voilà, moi je suis de cet avis-là et je le prouve. Si tu le prouves et tu sais que l'autre se trompe, tu vas pouvoir détruire la preuve de l'autre. Mais si je n'ai pas l'occasion.
Je vais prendre votre exemple. Dans le Sanhedrin, il prend une loi erronée. Il y en a un, au moins, qui se rend compte que c'est erroné. Il va leur dire pourquoi c'est erroné.
Voilà.
Il va leur démontrer que c'est erroné. Il ne va pas être suivi. Il sera suivi 50 ans après.
C'est pas qu'il soit pas suivi. C'est pas qu'il ne va pas être suivi. C'est qu'il ne va pas arriver à détruire l'opinion de l'autre. C'est plus que ça.
Il n'empêche pas que lui n'a pas de doute.
Lui, ça c'est sûr qu'il n'a pas de doute.
Alors dans votre hypothèse à vous, il mais le fait suivre la majorité.
Non, parce qu'il n'est pas capable de prouver la majorité qu'il a raison.
Mais c'est pas parce qu'il n'est pas capable qu'il a un doute.
Non, mais le fait qu'il ne soit pas capable de le prouver, ça veut dire qu'on a affronter deux idées et qu'il y a une majorité sur une des deux idées.
Non, mais vous disiez qu'il ne faut pas se joindre à la majorité lorsqu'on peut se joindre que lorsqu'on a un doute.
Absolument.
Alors, je reste sur celui qui n'a pas de doute.
S'il n'a pas de doute, il devra prouver pourquoi l'autre a tort.
Ben, il le prouve qu'il n'est pas suivi.
Donc c'est que la preuve n'est pas absolue.
Ou bien c'est que la compréhension des autres
n'est pas
compatible.
Dans votre cas, c'est pas. Non, on parle d'un cas où
bien
le
sûr.
Sanhedrin s'est trompé. Hein.
C'est impossible que sur 71 membres, il y en ait un qui ait raison et 70 imbéciles. Ça ne veut rien dire. C'est
mais
pas possible.
On parle
les chances sont nulles.
Le Sanhedrin
puisqu'on parle de choses très précises, hein, attention.
On est toujours dans ce cas. Le Sanhedrin s'est trompé. Donc il faut bien admettre que les arguments en compte étaient bons.
Absolument.
Alors c'est pas parce qu'ils étaient parce que le Sanhedrin n'a pas suivi que les arguments ne sont plus bons.
Absolument.
Ils restent bons.
D'accord, mais si ces arguments
étaient.
Si ces arguments étaient. Voilà, mais nous on exige que les arguments soient assez bons, que l'on puisse penser que si l'autre l'avait écouté, il se serait rangé. Alors que là, l'autre l'a écouté, il ne s'est pas rangé.
Mais ils se sont trompés, c'est votre exemple.
Encore une fois, non.
Si vous avez 69 sur 70,
je suis. Oui, non, c'est pas le problème combien on a. Le problème, c'est que si on a 69 contre 1 et que lui n'est pas arrivé à trouver dans 70 oreilles quelqu'un qui le comprenne, hein, on est 71. Il n'est pas arrivé dans 70 oreilles à trouver quelqu'un qui le comprenne, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, il devrait modestement penser qu'il a tout à fait tort. Mais nous, on ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui a des preuves mais qui n'arrive pas à se mesurer aux contre-preuves. Et son opinion a été entendue. Et maintenant, si j'ai quelqu'un dont l'opinion n'a pas été entendue au Sanhedrin, et que lui a une preuve qu'il n'arrive pas à confronter au Sanhedrin, et que lui, par discipline, s'est rangé au Sanhedrin, si après on trouve que le Sanhedrin s'est trompé, lui ne fait pas partie de ceux qui ont suivi le Sanhedrin. Comprenez ? Mais si on a confronté les preuves, là on fait partie. Donc plus quelqu'un fait partie du Sanhedrin, et plus il est obligé de se discipliner. Pourquoi ? Parce que tu es venu, tu as amené des preuves de ce que tu as avancé. Et malgré tout, tu n'es pas arrivé à convaincre la majorité. À ce moment-là, tu es obligé de te ranger. Et c'est ça la discipline, de se ranger à la majorité. Mais si il était au Sanhedrin, et qu'il n'a pas pu se confronter aux autres, donc il peut toujours penser que s'il émettait son idée, tout le monde serait d'accord avec lui. Et que malgré tout, il a suivi l'opinion du Sanhedrin. C'est pour ça que la Gemara ne prend pas l'exemple de celui qui est au Sanhedrin. Elle prend l'exemple d'un Talmid qui n'est pas au Sanhedrin et dont lui pense que le Sanhedrin s'est trompé. Vous comprenez? C'est tout à fait différent. Un, il a eu l'occasion de confronter, et l'autre, il n'a pas eu l'occasion de confronter. Quand on n'a pas eu l'occasion de confronter, on a le droit de penser qu'on a raison. Mais lorsqu'on a eu l'occasion de confronter, on n'est pas arrivé à prouver. À ce moment-là, même si on pense qu'on a toujours raison, on est obligé de se ranger à la majorité.
Si on prend une loi, par exemple, qui existe aujourd'hui, et qui n'avait pas de sens il y a un siècle, c'est-à-dire qu'il y a un siècle, il y a une assemblée de 70 ou 71 personnes, donc une personne a présenté une loi à 71 personnes, il y avait 70 oreilles qui ne voulaient pas écouter. Cette loi, la même proposition, un siècle après, elle trouve l'écoute de 65 personnes.
Alors la loi va changer.
La personne qui l'a présentée, puis qui avait tort et qui aurait dû se résigner, puis accepter la vision des 70 autres en disant ben j'ai tort, est-ce que cette vérité qu'il avait à l'époque, on peut dire qu'elle n'avait pas de sens, puisque un siècle après, curieusement, la loi qu'il avait présentée il y a 100 ans a trouvé sa place.
L'exemple est faux, mais le raisonnement il est juste. Le Sanhedrin ne présente pas de loi, c'est pas qu'on va présenter une loi. Le Sanhedrin a pour interpréter la Torah. On ne présente pas, c'est pas qu'un type lance une idée, les autres sont d'accord ou non. C'est que chacun vient et dit, voilà, nous on a appris que l'Halakha est comme ça. Il y en a qui vient et dit, j'ai appris que l'Halakha est autrement. Bon, là on commence à avoir deux idées. Mais c'est pas que quelqu'un propose quelque chose. Donc il s'agit d'une interprétation d'un texte ou d'une loi orale qui est objective et placée devant le Sanhedrin. Il ne s'agit jamais de proposer des lois. Le Sanhedrin ne peut pas proposer des lois. Mais c'est vrai que ça se passera comme ça. C'est que il y a 60 ans, on arrivait à dégager une majorité dans un sens, et il est possible que 60 ans après, on dégagerait une majorité dans l'autre sens. Donc là, l'Halakha va changer. C'est ce qui s'est passé avec Beth Hillel et Beth Shammai. Il y a eu une fois où Beth Hillel où Beth Shammai a obtenu la majorité, et à ce moment-là, ils ont fait passer 18 Halakhot, ce qu'on appelle les Yutrez Gzerot, 18, qui ont été passés ce jour-là où ils avaient la majorité. Après, ça a été changé.
Ce que je trouve bien, c'est que là, dans ce que vous expliquez, en fait, on ne doit pas accepter d'être dogmatisé par les autres. Si on a son idée, on ne doit pas accepter que les autres sous prétexte.
À moins qu'on les confronte aux autres et qu'on n'ait pas arrivé à leur prouver qu'ils avaient tort. Si on est arrivé à leur prouver qu'ils avaient tort, c'est pas le problème d'être dogmatisé, c'est qu'on est obligé de se ranger à la majorité.
Malgré qu'on sache, excusez-moi, si on sait que les autres ont tort, on a plus de doute,
on a. Non, on sait toujours que l'autre a tort. Le problème, c'est qu'on arrive à lui prouver. Et est-ce que l'autre, il a trouvé que la preuve n'est pas absolue ?
Je prends l'exemple qu'il a pas avoir. Alors, les gens qui pensent à Galilée, par exemple, ils pensaient que la Terre était ronde. Auprès de tous les scientifiques, la Terre était plate. Donc, il aurait dû se ranger auprès des scientifiques et dire la Terre était plate.
Non. Je vous dis pourquoi.
Il n'a jamais pu prouver que la Terre était ronde.
Ah bon ? Ah, lui, il n'a pas pu le prouver, voilà.
Il n'a pas pu le prouver. Donc, ça veut dire que si, maintenant, je retransmets ça par rapport à la religion, si il avait, c'était inavérable de dire la Terre est plate, il ferait cette
avéra
et il dirait la télépathe et il irait dans le sens de la majorité.
Absolument.
Parce qu'il est persuadé qu'il avait. Il était persuadé d'avoir raison.
Donc, alors je vais vous dire, la différence entre Galilée et la halakha, elle est que persuadé que j'ai raison, ça ne veut pas dire que c'est la halakha. C'est pour ça que je vous dis que le Emet, la vérité que nous dégageons, elle est selon une idée. D'accord. S'il avait des preuves, alors le fait qu'on ne l'ait pas entendu, c'est simplement qu'on ne veut pas entendre. C'est déjà plus un autre problème. Nous, on ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui arrive à prouver que l'alakha doit être comme celui-ci et l'autre l'alakha doit être comme celui-là. À partir de ce moment-là, on va dire que puisque c'est ça la majorité, c'est ça la vérité. Donc lui, il n'a plus aucun problème de faire le contraire. Non, il ne supporte pas la Vera. Mais c'est, ça devient ça la Lara. Maintenant, c'est ça la vérité. Donc, s'il faisait le contraire, c'est là où il faisait la bêtise. Nous, on en parlait dans un autre cas. On parle de celui qui pense que le Bédine s'est trompé, mais qui ne peut pas confronter. Et il pense que s'il allait, il pouvait aller au Bédine, il leur aurait prouvé qu'ils se sont trompés. Dans ce cas-là, lui n'a pas le droit d'obéir. Vous comprenez, on parle de ce cas-là. Et uniquement de ce cas-là.
Et qu'est-ce qu'il doit, si on lui pose la question, qu'est-ce qu'il doit répondre aux autres? Si lui pense, que, s'il est convaincu, le deuxième cas, le dernier cas dont vous avez parlé, si lui est convaincu qu'il a raison, preuve à la fille, mais qu'il a raison.
Il a tout à fait le droit de le dire. Non, savoir est-ce que lui va convaincre l'autre, c'est un autre problème.
Est-ce qu'il va entraîner si on lui pose la question récemment sans
absolument, dire, absolument, absolument.
Il va dire c'est moi qui ai raison et même.
Non, il peut toujours le dire. Il peut toujours le dire. Le problème, c'est un cas précis. Parce que le problème, c'est que si lui-même il va au Sanhédrin, là il va se faire avoir. Parce que s'il n'arrive pas, s'il n'arrive pas à obtenir la majorité, et que lui fait selon ce qu'il pense, là il est en faux. Comprenez? Tout ça c'est bien, hein, tant que tu n'es pas confronté à la majorité.
Je voudrais vous poser une question, c'était il y a trois cours, vous avez expliqué un petit peu comment était constitué le
Sanhédrin.
Ah, il y avait des élèves et puis des maîtres. Quoi. Et ce que je me pose comme question, c'est pour connaître l'objectivité de cette assemblée, quand un maître quittait, comment on recrutait le 71e?
On prenait celui qui était dans la première rangée, au premier banc.
Là, on est 71.
Non, mais ça ne se passait pas comme ça. Ça se passait pas comme ça. Il y avait des bancs. Pour être au premier banc, il fallait avoir un certain niveau. Pour être le plus près de celui qui va remplacer, il fallait avoir un certain niveau. Vous prenez chaque fois celui qui était dans la file. Ça veut dire que si quelqu'un il était le 70e, il avait peu de chances d'accéder un jour au Sanhédrin. Parce qu'il fallait qu'il ait 70 qui soit plus là. D'accord. Donc ça, c'est le sens du verset.
Comment on mesurait le niveau?
Ah, le niveau, il était mesuré d'abord. C'est pour ça qu'il fallait faire très attention au genre de questions qu'on était capable de demander et au genre de réponses qu'on était capable de produire. Parce que c'était public. Parce que c'était public. C'était public. Alors, donc, encore une fois, ici, le sens du verset, il est celui-ci. Navul Chayer Batorim, c'est-à-dire que tu n'es pas abandonné dans la galoute parce que tu as une référence. Tu as Torah écrite, Torah orale. C'est à toi de confronter la Torah écrite avec la Torah orale. Et c'est à toi de t'en sortir entre les deux. Mais tu as ces deux moyens-là pour essayer de dégager quelle est la vérité de la Torah. Il faut savoir, de toute façon, que en vérité, la machloket, si on veut dire, là où il y a eu une vraie rupture dans l'enseignement de la Torah, où il y a eu différents avis qui étaient autorisés, ça n'était que dans l'époque de la fin du Second Temple. C'est-à-dire, juste avant notre ère. Avant, jamais il n'y a eu de machloket jusqu'au Anshe Knesset Agdola, c'est-à-dire ceux de la Grande Assemblée, le début du Second Temple. Il n'y a jamais eu de machloket, il n'y a jamais eu de discussion sur une halakha jusqu'à les deux, ce qu'on appelle les deux Yossi, Yossi ben Yoézer et Yossi ben Yochanan, qui faisaient partie de la Grande Assemblée, Anshe Knesset Agdola, c'était à l'époque du Second Temple. Avant, la question ne se posait pas. Le Sanhédrin était obligatoire pour juger les choses. Alors là, maintenant, que
c'est bon.
C'est bon. Okay. Là, il y a encore un autre problème qui va se dégager. C'est que le rôle du Sanhédrin ou le rôle des enseignants, ça ne se limite pas seulement à fixer la halakha. C'est que le Sanhédrin, il est là aussi pour faire ce qu'on appelle des xérot et ce qu'on appelle des takanot. La xéra, qu'est-ce que c'est? La xéra, c'est de mettre une barrière sur l'interdiction ou l'obligation qui est celle de la Torah pour ne pas se mesurer personnellement avec la Torah et prendre du recul pour être sûr de ne pas transgresser ou un commandement positif ou un commandement négatif. Ça, c'est ce qu'on appelle une xéra. Donnez un exemple. Le Shabbat, vous n'avez pas le droit de mettre quelque chose sur le feu. On n'a pas le droit de faire cuire quelque chose. C'est un des 39 travaux. Ok. Maintenant, je peux mettre avant Shabbat. Si je mets avant Shabbat et que c'est déjà cuit, je peux retirer et remettre. Les Chachamim viennent et te disent non. Il y a des choses que tu ne peux pas mettre avant Shabbat. Il y a des choses que si tu retires, tu ne peux pas remettre. Il y a une façon de faire. Si on ne met pas quelque chose qui est entre la flamme et l'ustensile qui sert à cuire, tu ne pourras pas mettre du tout le Shabbat. Ça, c'est ce que Chacham Yisrael ajoute. La xéra, elle vient d'un fait qui est très simple. C'est que la seule manière de ne pas rentrer dans l'épreuve, c'est de se situer toujours avant l'épreuve. Il ne faut pas être en situation psychologique où le Shabbat, vous avez 14 invités et où c'est froid et où on rentre dans ce qu'on appelle le Nisayon. Alors pour ça, on va prendre des moyens qui vont faire qu'on se situe toujours avant l'épreuve, avant le choix. C'est-à-dire qu'on maîtrise les choses d'au-dessus. C'est le sens des xérotes. Si la Torah a été appliquée telle qu'elle a été dictée, sans les xérotes des Chachamim, elle serait impraticable. C'est-à-dire qu'il n'y a personne au monde qui pourrait dire qu'il ne fait pas tous les jours des Averot. Pourquoi? Parce qu'il est toujours entre le marteau et l'enclume. Et se situer toujours entre le marteau et l'enclume, ça veut dire qu'une fois sur deux, une fois sur trois, les meilleurs une fois sur quatre, ils tombent. À partir de là où on se situe plus haut, on a un espace qui fait qu'on est encore capable de raisonnement avant que les choses se passent. Ça, c'est le rôle des Chachamim de le faire. Il y a encore une autre chose qu'on appelle les takanot. C'est-à-dire qu'il y a l'organisation de la société. La Torah ne rentre pas dans les détails de l'organisation de la cité. Ça, c'est le rôle des Chachamim, c'est le rôle du Sanhedrin, de définir quels sont les critères. Ils sont très interventionnistes. Ils ont le droit de fixer les prix. Ils ont le droit de fixer les marchés. Ils ont le droit de fixer la concurrence. Tout ça, c'est le rôle des Chachamim. Ça veut dire que c'est pas tout de légiférer, de dire « Bon, on a discuté, on a vu que c'est ça la loi, à la majorité on décide. » C'est qu'il faut aussi savoir comment arriver à ce que les choses soient accessibles. Parce que la Torah brute, il est difficile, il est pratiquement impossible de s'y mesurer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va amener des solutions qui font que la Torah brute, elle soit toujours protégée. Ça, c'est le rôle des Chachamim. La même chose pour l'organisation de la société. On ne va pas attendre jusqu'à ce qu'on ait le problème de vol, de meurtre, de... Donc, on va... Mais le principal du rôle du Sanhedrin, c'est l'application des peines. Et ça, c'est encore un autre rôle. Et ça aussi, à majorité, minorité. C'est qu'on vient devant le Sanhedrin avec quelqu'un dont on dit au Sanhedrin il a faute, il a fait telle et telle chose, et c'est au Sanhedrin de statuer s'il est coupable ou non. Ce n'est pas au Sanhedrin de juger. C'est-à-dire que dans la Torah, il n'existe pas ni les circonstances aggravantes, ni les circonstances atténuantes. Toi, tu n'as pas apprécié l'autre personne. C'est-à-dire le rôle qu'a aujourd'hui le juge, qui est autant celui d'un psychologue ou d'un psychiatre que celui d'un juge, c'est qu'on va estimer que le pauvre, il a une enfance malheureuse, il a ceci, circonstances, machin, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire pitié et on ne peut pas faire envie. Pourquoi? Parce que le juge, ça n'est qu'un applicateur des peines. La peine, elle est marquée dans la Torah, ou tu as fait ou tu n'as pas fait. C'est tout. Il n'y a pas d'autre système qui est donné à appréciation de l'homme. Mais il est obligé de faire partie d'une mitzvah qui s'appelle Ubiyar Tahara Mikirbecha. Biyar Tahara, notamment, tu vas le va'er, ça veut dire extirper, enlever le mal, Ara, Mikirbecha, de ton sein, de ce qui est à l'intérieur de toi. Ça veut dire que finalement, le Sanhedrin, c'est celui qui exécute les peines de mort, qui exécute les peines d'argent. Et ça aussi, ça fait partie du Sanhedrin. C'est vrai que l'alakha, elle est qu'un Sanhedrin qui tue une fois tous les 70 ans s'appelle Khablanit. Khablanit, ça veut dire terroriste. Ça veut dire que la peine de mort ne doit pas être appliquée plus qu'une fois tous les 70 ans. Et si on arrive à l'appliquer une fois tous les 70 ans, c'est qu'on est des gens qui aiment le sang. Mais d'un autre côté, il faut l'appliquer aussi. Donc il faut croire que c'est tellement difficile de l'appliquer qu'elle ne peut pas être applicable en pratique plus qu'une fois tous les 70 ans. Pourquoi c'est comme ça? Je dis pourquoi c'est comme ça. Il y a quelque chose de spécifique dans la loi juive. C'est qu'on ne se met dans les mains de Sanhedrin, c'est-à-dire on ne peut être un client pour le Sanhedrin, que si on a accepté d'être jugé par lui. Vous allez dire, mais c'est bête, puisqu'il suffit que quelqu'un dise qu'il n'accepte pas d'être jugé par le Sanhedrin, il ne sera pas jugé par le Sanhedrin. Non. Ici, on parle avant la faute. Un meurtrier, il n'est coupable de mort que s'il a été averti par des témoins, et qu'après l'avertissement, il a dit « Afalpiken ». Malgré cela, s'il n'a pas été averti, ou que les témoins ne l'ont pas entendu dire « Afalpiken », malgré cela, il ne peut pas être jugé par le Sanhedrin. C'est-à-dire que le rôle du Sanhedrin, c'est d'appliquer une justice, mais dans des cas relativement compliqués. Parce que quel est le type qui, avant d'aller tuer quelqu'un, va le faire avec témoins? Et même s'il y a des témoins, qui ne peut pas faire autrement, parce qu'on ne choisit pas toujours le moment où on devient l'assassin, il faut que les témoins l'aient averti et que lui disent « J'ai reçu l'avertissement, mais malgré ça, je le fais. » C'est-à-dire que c'est pratiquement un acte de rébellion ou un acte de suicide. Sinon, il n'y a pas de possibilité pour le Saint-Denis de juger. Alors vous allez me dire, si c'est comme ça, pourquoi le Saint-Denis a besoin de juger? C'est pas la peine non plus. Si la personne doit accepter avant d'être jugée après par le Sanhedrin, ça n'a plus d'intérêt. L'intérêt, il est juste pour une chose. Il y a marqué le Ma'an Yishmu V'Yirahu. Mutamu, le Ma'an, afin que Yishmu, on entende, V'Yirahu, et qu'on ait peur. Il est obligé d'exister une justice humaine. S'il n'existe que la justice divine, alors il y a deux possibilités. Ou elle s'exerce selon le principe qu'on arrive à reconnaître Mida Kenegel Mida, chaque fois que tu fais quelque chose, on t'attrape. Dans ce cas-là, il n'y a plus de libre arbitre pour l'homme, puisque lui est obligé d'intervenir d'une façon immanente, qui est reconnaissable dans la société. Donc ça veut dire qu'on a affaire à chaque instant avec le bon Dieu, on est fichu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de choix dans l'accomplissement des mitzvot, ni dans la façon dont on gère sa vie. Donc on doit trouver un système où on n'a pas affaire au bon Dieu. Mais on a quand même affaire au bon Dieu. Maintenant, on a trouvé ce système-là. Celui qui a reçu un avertissement, et malgré ça, il l'a fait, celui-ci rentre dans la jurisprudence du Saint-Denis. À part les problèmes d'argent. Pour les problèmes d'argent, il n'y a pas besoin d'avertissement. Il n'y a pas besoin qu'un voleur, avant qu'il vienne piller, qu'il y ait deux témoins qui lui disent « Attention, tu vas recevoir ça et ça. » On arrive à prouver que le voleur, il doit rendre. Mais il n'existe pas de peine pour le voleur. Un voleur doit rendre. On ne coupe pas les mains, on n'envoie pas en prison. Il n'y a pas de peine pour le voleur. La seule peine qu'il y a, c'est pour celui qui vole sans un visage recouvert et pas un visage découvert. Lui doit payer ce qu'on appelle le kefel, il doit payer le double de la valeur de ce qu'il a volé. Mais ça, c'est un knas. Ça, c'est une amende que la Torah a donnée. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a peur des hommes et n'a pas peur de Dieu. Parce que si quelqu'un vole, et que déjà il n'a pas peur de Dieu, il n'a qu'à voler à visage découvert aussi. Non, il a peur des hommes, mais il n'a pas peur de Dieu. Mais celui qui a ni peur des hommes, ni peur des dieux, il s'appelle le Gazlan, pas le Ganav. Celui-ci, il ne paye que la valeur de ce qu'il a volé. Ou il rend ce qu'il a volé. Il n'y a pas de peine prévue dans la Torah qu'on puisse lui infliger. Il n'y a pas de peine de prison, il n'y a pas ce genre de choses-là. Maintenant, les Chachamim, eux, ont le droit d'instituer une peine de prison. Pire encore, ils ont le droit d'instituer la peine de mort. Ça veut dire que même dans un cas où il n'y a pas la peine de mort qui est prévue par la Torah, les Chachamim peuvent instituer la peine de mort. Jusque-là est leur pouvoir. Mais, toujours dans les limites, il faut l'avertissement, il faut que la personne ait compris l'avertissement, et il faut qu'elle le fasse malgré cela. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que tout ce qui n'est pas de l'un envers l'autre. Parce que vous savez que si je frappe quelqu'un, je ne suis coupable que d'une peine d'argent. Et toutes les peines d'argent, on a dit, il n'y a pas besoin d'avertissement. Mais lorsque j'ai fait une avéra, j'ai transgressé le Shabbat, j'ai fait la avodah zara, j'ai tué quelqu'un, ce sont des choses qui me concernent. De toute façon, le mort, il n'aura pas de réparation parce qu'on va me tuer ou non. Ça veut dire que la peine de mort dans la Torah, ça n'est pas que parce que tu as fait telle et telle chose, alors on va te rendre la même chose. La peine de mort dans la Torah, c'est parce qu'on n'arrive pas à supporter un individu pareil. Chaque fois qu'il peut exister une circonstance atténuante, il n'a pas entendu l'avertissement, ou on ne l'a pas averti, ou ce n'était pas devant des témoins. Donc on ne sait pas, est-ce qu'il est méside, c'est-à-dire qu'il a fait exprès, ou il est shogeg, il ne savait pas. Dès ce moment-là, il n'est plus jugeable. On ne peut plus appliquer les peines. Mais à partir du moment où on est certain qu'il le fait, on a une mitzvah, et c'est l'obligation du Sanhédrin, d'appliquer la peine. C'est-à-dire que la justice, elle agit avec deux facettes. On est obligé d'avoir une règle dans la société pour que les gens sachent que c'est pas aussi facile que ça. Mais on est obligé aussi de ne pas juger les autres. Et à part les peines d'argent, c'est-à-dire que c'est une restitution finalement, toi tu n'as pas à te mêler de la vie des autres. Le type veut faire ci, veut faire ça, c'est pas ton affaire. Alors si c'est pas mon affaire, pourquoi lorsque j'ai eu des témoins et qu'il a quand même fait, pourquoi est-ce que je le juge? C'est ça ou biartaram kirbecha. Il y a une obligation pour l'homme de lui aussi faire œuvre utile dans la création et d'essayer d'enlever le mal là où il est. Saül, le roi Saül, il est écrit dans la Gemara, dans le traité de Yuma, que lorsqu'on l'a lancé dans la guerre contre Amalek, on lui a dit qu'il devait faire la guerre avec Amalek, il a répugné à exterminer Amalek. C'est à cause de lui qu'est né Aman. Et qui vous diront que c'est à cause de lui qu'est né Hitler, j'en sais rien. Nous aujourd'hui on n'est pas précis sur ce qui est Amalek et qui n'est pas. Ce commandement de tuer Amalek, il est venu lui, il a dit, bon, les soldats, c'est normal, mais pourquoi les civils? Pourquoi les vieux? Pourquoi les petits? Pourquoi les femmes? Pourquoi si? À ce moment-là, la Gemara a dit, qu'on lui a dit, alti et tzadik arve. Tu ne dois pas être trop tzadik. Qu'est-ce que ça veut dire être trop tzadik? Trop tzadik, ça veut dire que moi, je me lave les mains de ce qui peut se passer, et le bon Dieu n'a qu'à faire le sale boulot. C'est vrai que je comprends très bien qu'il y a une sorte d'individu qu'on ne peut pas tolérer, qu'il faut extirper. Mais moi, je ne veux pas m'en mêler. Le bon Dieu n'a qu'à faire son boulot. Alti et tzadik arve, ça veut dire hein, ne sois pas plus tzadik que le bon Dieu. Quelle est la preuve? C'est qu'en même temps, à Saül, on lui a dit ve alti racha arve, ne sois pas trop racha. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une ville qui s'appelait Nov, la ville des Kohanim, qui s'est rebellée contre lui, bien que la lacha elle est que celui qui se rebelle contre le roi a le droit de le tuer. Mais il a fait exterminer toute la ville. Là, ça ne l'a pas gêné. Pourquoi? Parce qu'ils étaient contre son pouvoir et qu'ils voyaient qu'il n'arrivait plus à exercer son pouvoir de mêler de roi. Donc on lui a dit, Altira Charbé, là-bas, peut-être ça suffisait de faire un petit exemple ou un ou deux. Peut-être pas obligé de liquider tous. Mais là, tu trouvais que c'était normal de les liquider tous. Pourquoi? Parce qu'ils te gênaient. Parce qu'ils faisaient que ce pouvoir qui est celui du roi ne peut pas se mesurer à la révolte ou à la révolution. On comprend, ok. Alors tu dois comprendre aussi que puisque tu comprends très bien lorsque toi-même tu es menacé, que lorsque l'ordre des choses est menacé, tu ne peux pas t'en remettre au bon Dieu. C'est pour ça qu'il y a le rôle du Bedin qui est de punir celui qui doit être puni. Mais attention, ça n'est que pour montrer que l'homme aussi est concerné et qu'il ne peut pas toujours dire « moi je fais le bien, c'est le monde qui fait mal ». La preuve, les maladies, c'est pas moi qui les crée, les soucis, c'est pas moi qui les donne, les problèmes, c'est toujours le bon Dieu. C'est vrai que le bon Dieu règle les comptes, mais on ne sait même pas comment il règle les comptes, parce que quand il les règle, il y en a tellement qui passent et ça va tellement vite qu'on n'arrive pas à voir exactement le compte. Mais il les règle. Comment ? On ne sait pas exactement. Mais il doit les régler à sa façon. De dire, moi je n'ai pas besoin de me mêler de ça, ça veut dire que tu n'es pas concerné par ce problème. Alors que c'est ça l'obligation. Le manish movirahu essaye de créer une société où il y a une crainte, parce que sans crainte, l'homme n'est pas capable de pouvoir être équilibré, parce qu'il perd la notion des choses, ce qu'on appelle la ira. Ira, ça vient du mot roé. Quand tu ne vois pas les choses, tu oublies et tu perds l'équilibre des choses. Quelqu'un qui va dans une forêt, il ne sait pas qu'il y a des animaux sauvages, il n'a pas vu, il n'a pas peur non plus, mais il lui a valu qu'il ait vu et qu'il ait peur. C'est pour ça que le mot ira, crainte, ça vient du mot roé, lirote. Je dois voir où je me positionne. Alors là, je prends les choses au sérieux. Mais l'homme a tendance à ne pas voir où il se positionne. Donc il a tendance à ne pas avoir peur, à ne pas avoir de ira. Ça, c'est la différence qu'on appelle parad et ira. Parad, c'est la peur physique. Tu es menacé, tu as peur. Ira, c'est la crainte. C'est-à-dire que tu imagines que ça va se passer comme ça et comme ça. Si tu vois pas, tu ne sais pas regarder, tu ne peux pas imaginer ce qui arrive. Un enfant, il n'est pas capable d'imaginer tout ce qui peut se passer. Donc lorsqu'une voiture arrive en plein contre lui, il a le parad. Mais 5 minutes après, il fallait avoir la ira. Il fallait voir que ça pouvait arriver. Là, il n'est pas capable de la voir. Donc, comme il ne voit pas, finalement, il n'a pas peur de choses dont il devrait avoir beaucoup peur. C'est pour ça que la ira, ça vient du mot lirot, voir. Et que ce que tu sais, tu peux le prendre en compte. C'est ce qu'on appelle la ira. L'ira, c'est prendre en compte. Parad, c'est autre chose. Parad, c'est le problème physique lorsqu'on se mesure avec le danger. Mais la ira, c'est celle qui me permet de voir le danger. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ce qu'on appelle, ils ont l'ira de Shamaï. Ils voient le danger à faire telle et telle chose dans la vie, parce qu'ils savent qu'il y a un bon Dieu et qu'un jour, ils vont rendre les comptes. Et puis il y en a qui n'ont pas la ira. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas, ou ils ne voient pas, ou ils ne se rendent pas compte que. Donc en vérité, la ira, c'est un problème de positionnement, parce qu'on prend en compte telle et telle chose, qu'on ne prend pas en compte telle et telle chose. Le manishmu veyiraou, c'est que, à partir du moment où quelqu'un a été tué par la Bedin, les gens commencent à prendre en compte des notions qu'ils n'auraient pas pris en compte. Et ça, on en a besoin. Parce que si c'est le bon Dieu qui le fait, on a toujours la possibilité de dire « Ah non, c'est pas de sa faute, c'est un accident de voiture. Il n'y a rien arrivé, le bon Dieu, il est pour rien. C'est un accident de voiture, ça arrive. » On a toujours le choix de nier la présence divine dans les événements. Ça dépend de la yira tchamayim, ça veut dire de la crainte, mais pas dans le sens de peur, mais de la prise en compte de mon positionnement par rapport à ce que je crois que Dieu va me reprocher ou pas me reprocher. Donc ça aussi, ça fait partie du travail du Sanhédrin. Ça veut dire qu'on dit, si on dit Tzavarer Bacharuzim, ça veut dire que le coup, c'est ce qui soutient la tête. C'est pour nous, on pourrait dire la colonne vertébrale, mais la colonne vertébrale, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc lorsqu'on dit le coup, ça veut dire que tu peux avoir la tête bien pensante et équilibrée, parce que le Sanhédrin est là pour parler aux choses. Il est là pour parler aux choses dans la théorie, dans la fixation de l'Halakha. Mais il est aussi là pour parler aux choses, pas seulement dans la fixation de l'Halakha, mais dans les xérotes, dans la façon dont toi tu vas te positionner, et dans les châtiments, puisque le but du châtiment, c'est de remettre les choses en place dans l'esprit de l'homme. De remettre par rapport à lui, que toi aussi tu dois participer au fait que tu as donné naissance à des gens qui ne sont pas comme il faut et qu'on ne peut pas supporter. Et ce n'est pas seulement le boulot d'Akadosh Baruch Hu. Et parce que toi aussi, tu dois pouvoir te positionner, prendre en compte. C'est ça le manishmu v'ira ou la ira. qu'on doit pouvoir prendre en compte certaines choses. Comme ça, la façon que tu auras de te dépasser, elle pourra changer. Bon, le prochain verset, c'est déjà autre chose, donc on va s'arrêter là.